Qu'est-ce qu'il lit ?
Il est d'habitude celui qui pose les questions. Et son talent n'a plus besoin d'être démontré. Il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur intervieweur de l'année en 2018. Mais cette fois-ci, nous allons inverser les rôles, une sorte d'arroseur arrosé pour partir à la rencontre d'Augustin Trappenard. Alors pendant cette interview, on aurait pu parler chevaux, un père reconverti dans l'élevage et même un frère, entraîneur pour course hippique. Mais c'est plutôt de littérature anglaise et américaine qu'Augustin Trappenard s'est passionné. Depuis son passage à l'École normale supérieure de Lyon, ce boulimique de travail est sur tous les fronts, un quadrimoteur même, c'était le surnom que lui donnait Michel Denisot. Prof, journaliste littéraire, chroniqueur et même parfois acteur de son propre rôle, il est tour à tour sur France Inter, France Culture, France 24, Canal+, et dernièrement, Brutitz. On le retrouve pour le Qu'est-ce qu'il lit du monde, enregistré au Salon du Livre du Mans.
Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Augustin Trappenard.
Bonjour Judith.
Nous sommes au Salon du Livre du Mans et pendant quelques instants, nous allons tenter de constituer une bibliographie de votre vie et parler de votre rapport à la lecture, à la littérature, à travers une sorte de questionnaire de Proust qui a été élaboré par le Monde des Livres.
Okay.
Le Qu'est-ce qu'il lit ? Et je vais commencer par la fin, le livre que vous voudriez avoir lu avant de mourir.
Le livre que j'aimerais avoir lu avant de mourir, je pense que ce serait Les Mille et Une Nuits. C'est un livre dont je connais quelques histoires, qui ont été souvent adaptées, souvent disséminées dans plein d'autres histoires, mais que je n'ai jamais lu dans son entièreté. J'ai fait des études de littérature où on m'a demandé de lire la Bible, donc j'ai lu la Bible qui s'est disséminée de la même façon, Les Mille et Une Nuits, pas de la même façon, et c'est un livre qui me fascine parce que c'est un livre entièrement dédié à l'art de raconter des histoires. Et donc je rêve de le finir, en fait, d'aller au-delà de ces petites histoires que j'ai pu lire.
Qu'est-ce qui vous en empêche ?
Le temps, toujours. La joie de relire aussi, parce que je suis un grand relecteur, moi. Par exemple, je vais vous faire une confidence. Chaque année, depuis 7 ans, je relis Les Misérables d'Hugo, qui est peut-être un des livres qui me fascine le plus dans la littérature française. Et notamment, je m'attarde sur des choses différentes à chaque fois. J'ai une passion pour la description, en ce moment, du jardin de la rue Plumet, dans Les Misérables, du coup.
Vous le réalisez à une même époque ?
Oui, souvent l'été, parce que c'est un moment où j'ai plus le temps de lire, évidemment.
Les Misérables, de Victor Hugo. Un jour, l'air était tiède. Le Luxembourg était inondé d'ombre et de soleil. Le ciel était pur, comme si les anges l'eussent lavé le matin. Les passereaux poussaient de petits cris dans les profondeurs des marronniers. Et Marius avait ouvert toute son âme à la nature. Il ne pensait à rien. Il vivait et il respirait. Il passa près de ce banc, la jeune fille leva les yeux sur lui, leurs deux regards se rencontrèrent. Qu'y avait-il cette fois dans le regard de la jeune fille ? Marius n'eut pu le dire. Il n'y avait rien et il y avait tout. Ce fut un étrange éclair.
Je me souviens d'avoir lu toute l'œuvre de George Eliot 3 années de suite, qui était une romancière que je n'avais pas assez lue, alors que j'avais pourtant fait des études victoriennes. Et je me souviens d'avoir lu cette œuvre-là plusieurs étés de suite.
Un bon livre, c'est un livre qu'on relit ?
Je le crois. C'est un livre qui résiste au temps. Après, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un bon livre. Ça sera toujours un bon livre pour moi. Je me méfie beaucoup de mon propre jugement de goût. J'essaie toujours de le questionner, de me demander d'où il vient, qu'est-ce qui fait que j'aime un livre. Et si j'aime ce livre, quel livre je n'aime pas ? Parce que souvent, un livre qu'on aime va de pair avec plusieurs livres qu'on n'aime pas. Bourdieu disait, quand tu me donnes ton goût, tu me donnes d'abord ton dégoût. Il y a une forme de violence, de domination dans le jugement de goût, sur laquelle il faut, à mon sens, toujours s'interroger. Mais un livre qu'on relit, en tout cas, mais par contre, on n'est pas exempt d'un jugement de goût, on en a tous un. Et un livre qu'on relit, ben, c'est un livre qu'on aime bien, ouais.
On va aller sur ce terrain des livres, des auteurs moins aimés. Mais d'abord, est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie d'offrir à tout le monde et peut-être l'avez-vous déjà fait ?
Oui, c'est le livre que j'ai le plus offert. C'est un livre qui s'appelle « Retour à Reims » de Didier Héribon. Et c'est un livre qui est une sorte de note de bas de page pour moi à l'œuvre de Bourdieu que je viens juste de citer, dont le grand texte, La Distinction, a un peu changé ma vie quand je l'ai lu à l'âge de 19 ans. Et par son expérience personnelle, par le récit de sa vie et de son retour, justement, là où il vient, par son expérience de transfuge de classe, Didier Héribon met en scène des problématiques politiques, culturelles, qui me semblent absolument centrales. C'est un livre que j'ai beaucoup offert parce qu'il m'a fait me poser des questions. Or, pour moi, la littérature est le lieu de questions. C'est une des raisons pour lesquelles je suis intervieweur aujourd'hui, beaucoup plus que critique ou même journaliste. Je pose des questions.
Retour à Reims de Didier Héribon. Bref, un moment où la honte se transforme en orgueil. Et cet orgueil est politique de part en part, puisqu'il défie les mécanismes les plus profonds de la normalité et de la normativité. On ne reformule donc pas ce qu'on est à partir de rien. On accomplit un travail lent et patient pour façonner son identité à partir de celle qui nous a été imposée par l'ordre social. C'est pourquoi on ne s'affranchit jamais de l'injure ni de la honte. D'autant que le monde nous lance à chaque instant des rappels à l'ordre, qui réactivent les sentiments qu'on aimerait oublier, qu'on croit parfois avoir oubliés.
Mais quand vous offrez le livre, et ce livre, donc Retour à Reims de Didier Hébon, c'est « Lis ça, tu me comprendras mieux ».
Je pense que quand on offre un livre, c'est toujours ça. C'est toujours « tu me comprendras mieux ». Je pense que les livres nous lisent, c'est un cliché, mais ils disent quelque chose de nous. Et quand on choisit de l'offrir, quand on choisit de le partager, c'est bien secrètement pour dire quelque chose de soi.
Partagez-nous votre premier souvenir de lecture.
Mon premier souvenir de lecture, je pense que ce sont les livres illustrés de Beatrix Potter, qui était une naturaliste anglaise. J'ai eu la chance ou la malchance de vivre en Angleterre quand j'étais petit. J'ai appris à lire et à écrire en anglais. Et j'avais ces livres illustrés de Beatrix Potter, dont le plus célèbre est sans doute Pierre Lapin, Peter Rabbit en anglais. Bon, je viens d'une famille auvergnate, très proche des animaux. Et donc, dans notre famille, on avait toujours un goût pour les livres illustrés avec des animaux. Donc, c'est peut-être quelque chose qui me hante, ces livres de Beatrix Potter. Je me souviens de la violence de certaines images. Je me souviens de ce lapin tiré par les oreilles. Je me souviens de lui enfermé dans un sac ou dans des grillages, libéré par des oiseaux. Je me souviens surtout du conte en fait qu'il représentait. Peter Rabbit est un drôle de coco qui est très insolent et qui refuse les règles imposées par sa mère et qui va se faire presque piéger.
C'est une allégorie pour parler de votre enfance ou pas ?
Sans doute. Je pense que, du moins, c'est ce que j'essayais de rechercher, c'est ce que je rêvais d'être. Et souvent, d'ailleurs, la littérature, pour moi, a été un modèle d'intelligibilité de la vie, du monde. Elle m'a appris à quitter quelqu'un, à aimer, à traverser la rue, même, parfois. Mais elle m'a aussi donné des modèles, des idées de ce que je pourrais possiblement devenir. Et ça, c'est à mon sens, encore plus important. Par exemple, le livre dont j'aimerais être le héros, ce serait peut-être « Léo de Hurlevent » d'Émilie Brontë, qui est un livre très important pour moi, que j'ai dû lire une cinquantaine de fois parce que j'en ai fait l'objet de ma thèse. Émilie Brontë est une romancière anglaise. Et dans ce livre, qui est une immense histoire d'amour, la plus violente qui soit, puisqu'elle est quasiment incestueuse, il y a ce personnage de Heathcliff, personnage de nature, hein, dans son nom Heathcliff. On entend déjà en anglais les mots de la nature, qui est un personnage d'une grande virilité, qui est un personnage extrêmement lié au désir. Et je pense qu'il était tout ce que je voulais être quand j'étais petit. Et je pense que la fascination que j'ai pour ce livre vient de là.
Léo de Hurlevent, d'Émilie Brontë. Vous m'apprenez maintenant combien vous avez été cruelle et fausse. Pourquoi m'avez-vous méprisée ? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Catherine ? Je ne puis vous adresser un mot de consolation. Vous avez mérité votre sort. Vous vous êtes tué vous-même. Oui, vous pouvez m'embrasser, pleurer, m'arracher des baisers et des pleurs, mais ils vous dessécheront, ils vous damneront. Vous m'aimiez ? Quel droit aviez-vous alors de me sacrifier ? Quel droit ? Répondez-moi.
Vous avez titillé ma curiosité, quel est le livre qui vous a appris à quitter ?
Le livre qui m'a appris à quitter, c'est peut-être La recherche du temps perdu.
Parce que le livre vous a quitté des mains
ou... Non, parce qu'il est beaucoup question d'amour, de jalousie et d'éloignement, d'absence. Et dans sa relation avec le personnage d'Albertine, le narrateur m'a appris beaucoup de choses, de réflexion sur soi-même.
Qu'est-ce qu'il lit ? n'écrivez pas, enfin du moins publiquement, mais écrire une interview est un art de l'écriture aussi. Est-ce qu'il y a un livre dont vous aimeriez écrire la suite ?
Oui, je pense tout de suite à Jane Eyre de Charlotte Brontë pour une raison très simple. C'est que vous avez raison de dire que je n'écris pas. C'est différent, hein, lire et écrire. Et pourtant, je pense que le lecteur écrit à sa façon. Le lecteur prolonge, quelque part, l'écriture d'un livre. Or, l'intérêt de Jane Eyre, c'est que c'est un livre qui a été beaucoup réécrit, beaucoup complété, beaucoup animé, mis en scène, mis en film. C'est un texte qui m'a beaucoup choqué. Je trouve que la fin de Jane Eyre revient sur toute la dimension subversive qu'il y a pu avoir dans le livre. Au final, sans divulgâcher quoi que ce soit, Jane Eyre finit en bonne infirmière de son mari aveugle. Or, je trouve qu'elle méritait un meilleur destin. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Vous savez, c'est drôle parce que j'avais cette discussion récemment avec quelqu'un qui me disait « Mais moi, Madame Bovary, j'aurais aimé qu'elle ne meure pas. » Or, moi, ça ne me dérangeait pas qu'elle meure dans la mesure où c'est pas le personnage le plus intéressant et le plus intelligent de l'histoire de la littérature. D'ailleurs, dans Bovary, il y a Bovin. Et Flaubert ne s'y trompe pas. C'est un personnage dont il se moque du début jusqu'à la fin. Mais Jane Eyre, c'est plus compliqué. Jane Eyre, c'est un personnage féministe avant l'heure. C'est un personnage assez radical, en fait. Et cette fin, qui est une fin très victorienne, hein, de l'Angleterre victorienne, une fin qui rassure le lecteur et la lectrice victorienne, me semblait un peu en deçà.
Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Quand je le regardais, je n'étais plus maîtresse de mes sentiments. C'est lui qui devenait mon maître. Mon intention n'était pas de l'aimer. On sait combien j'avais lutté pour arracher de mon cœur les germes de ce sentiment. Et maintenant, à notre première rencontre nouvelle, il revivait, il refleurissait. Sans même me regarder, il se faisait aimer.
Si vous deviez choisir un auteur, une autrice, un personnage de roman pour passer la soirée ?
Ah ! Si je devais passer la soirée avec un personnage de roman...
Bien sûr, vous allez imaginer un dîner avec sept personnes, certains vivants, certains morts, je vous imagine déjà.
Non, je vous dirais que passer la soirée, c'est pas exactement pareil que rencontrer. Passer une soirée chez moi, ça se prolonge, ça peut devenir sensuel. Donc ça serait peut-être François Villon, ça serait Jean Genet, ça serait Hervé Guibert, grande figure des littératures homosexuelles pour moi, ou alors peut-être Fitzgerald avec Zelda parce qu'il faisait bien la fête.
Un livre pourrait être un bon accompagnateur de fête ?
Alors vous savez que moi, pendant très longtemps, j'emmenais des livres dans les soirées.
Je faisais la même chose.
Et je me souviens, c'est vrai, et je me souviens de m'être beaucoup fait moquer parce que je lisais pendant les soirées. C'est-à-dire que nos métiers font qu'on doit lire beaucoup, y compris le vendredi et le samedi soir. Et je me souviens de m'être un peu éloigné un jour dans une soirée. Il y a des gens qui se sont beaucoup moqués de moi. Et ça m'est revenu dans une interview. Un jour, j'étais invité chez Thierry Ardisson, qui m'a dit « De source sûre, je sais que pendant les soirées, vous ouvrez votre bouquin. » C'était arrivé une fois, ça a dû arriver une petite dizaine de fois, mais bon, c'est devenu ma réputation. Donc oui, un livre peut accompagner une soirée.
Un livre peut vous faire rire, et si oui, lequel ?
Alors Flaubert, par exemple, me fait énormément rire, puisqu'on en parlait tout à l'heure. La fin de l'éducation sentimentale, quand après cette non-relation sexuelle avec la femme qu'il aime, Frédéric Moreau allume une cigarette comme s'il avait accompli son désir, ou à la toute fin, si je me souviens bien, quand il apporte des fleurs à une prostituée, ce sont des scènes qui me font énormément rire. Mais là, je pense tout de suite à un livre de David Sedaris qui s'appelle « Je parlais français », David Sedaris, écrivain et humoriste américain, parce que je pense qu'il y a une écriture à l'humour aussi, qui est un livre où il raconte comment il a appris la langue française, et c'est un livre qui souvent me fait effectivement hurler de rire. Il raconte notamment comment il change de personnalité suivant la langue qu'il a, et je ne vous cache pas que quand il parle français, il est évidemment extrêmement arrogant.
Facile. Est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez pouvoir lire dans sa langue originale ?
Oui, les livres russes. Je pense à un livre hongrois qui s'appelle La Porte de Magda Szabo, qui est un livre qui compte beaucoup pour moi. Et en même temps, j'ai une grande passion pour la traduction. Étant angliciste moi-même, agrégé de littérature anglaise, je m'intéresse beaucoup aux traductions et j'ai pu recevoir dans mes émissions de grands traducteurs qui sont des couches d'écriture. C'est-à-dire que pour moi, quand on lit une œuvre traduite, on lit en réalité deux œuvres qui se superposent et qui dialoguent. Donc je trouve ça aussi très intéressant comme expérience. J'aimerais lire Tchekhov également pour la beauté des traductions que j'ai pu lire. Il reste quand même un mystère quelque part.
Vous définissez vous-même comme un lecteur ?
Ah oui, profondément. C'est ce que je sais faire le mieux. C'est ce que je suis essentiellement. Vraiment, ouais.
Quelles sont les qualités d'un lecteur ?
La curiosité, le courage, parfois. l'ouverture, le refus de mettre des limites, de définir. Ça, c'est très important pour moi. Vous savez, la définition, c'est ça, c'est mettre des limites. Hein, c'est bien encercler, mettre des limites étymologiquement. Et je crois qu'il faut toujours s'en empêcher, résister, se méfier de soi-même aussi en tant que lecteur. Accepter de se lire soi-même aussi. C'est peut-être tout ça.
Y a-t-il un lieu que vous réservez à la lecture ?
Ma baignoire. Enfin, je me lave aussi, hein. Mais en tout cas, je lis beaucoup dans ma baignoire. J'ai la chance de beaucoup travailler chez moi, puisque outre mon émission le matin, je retourne à la maison pour travailler. Et c'est vrai que je lis dans mon lit et dans ma baignoire, surtout. Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose de psychanalytique à étudier dans la position quasi fœtale, dans le liquide presque amniotique de la lecture. Il doit y avoir quelque chose de cet ordre.
Et alors, est-ce qu'il y a un livre qui a suscité des problèmes de bulles de savon ou je ne sais quoi, parce que vous étiez trop plongé dedans ?
Vous m'avez fait très peur, là, sur votre question. J'allais vous répondre Sade, évidemment, dans la terreur et le plaisir qu'il peut susciter en même temps. Là, je pense qu'il y a eu quelques bulles de savon. Ouais.
Y a-t-il un livre plutôt reconnu qui vous tombe des mains ?
Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un livre que je n'aime pas beaucoup. C'est un livre que je n'ai jamais réussi à défendre publiquement, alors que c'est quand même mon métier de partager la littérature. Et c'est un livre, ça m'intéresse parce qu'on me le cite énormément. Vous savez, je suis le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, où je me promène en France et dans le monde entier sur le terrain à leur côté. C'est une association qui défend la culture, la formation et l'éducation auprès de personnes qui en sont empêchées ou exclues. Et partout dans le monde, souvent dans nos bibliothèques, je peux voir surgir Le Petit Prince. Toujours un peu difficile parce qu'on me le surgit. On me le montre, on me le donne. Et c'est un personnage qui m'agace profondément. Déjà, je le trouve trop blond, je le trouve trop bien élevé, je le trouve trop peut-être décoiffé. C'est intéressant de se poser la question de pourquoi on n'aime pas un livre. Je pense que ça dit toujours quelque chose de soi. On en parlait un peu tout à l'heure. Je pense que Le Petit Prince, on me l'a trop conseillé. Il y a eu une trop grande injonction pour moi. Et si je vais un peu plus loin, je vous dirais que c'est quelque chose auquel je veille dans mon métier de journaliste, de ne pas être forcément dans la prescription, de ne pas dire « il faut lire ce livre plutôt qu'un autre », mais plutôt d'essayer de susciter par le plaisir, par le partage, quelque chose qui pourra parler aux lecteurs qui m'écoutent.
Sans que cela ne tourne à l'injonction, je vais quand même vous demander une recommandation d'un livre moins connu que vous portez personnellement au nu.
Alors, il y a un livre que j'ai beaucoup offert, en plus de Retour à Reims de Didier Ribon. C'est un livre qui s'appelle Vie animale de Justin Torres, qui est un très court roman, très important pour moi. Ce serait aussi le livre, pour vous répondre, parce que vous aimez bien les formules, qui me réconcilierait avec le monde. Ce serait le même. Ce serait cette histoire très belle d'un nous qui devient un jeu, d'une famille de laisser pour compte, presque animal, d'une fratrie extrêmement violente, bestiale, où petit à petit se détache un narrateur qui, en l'occurrence, va sortir tout ce qu'il a en lui, y compris son identité, son genre, son homosexualité. C'est un texte que je trouve très important pour moi et qui n'est pas, à mon sens, assez connu.
Vie animale de Justin Torres. Quand on était frères, quand on était tous les trois ensemble, un jour, on a formé une femme. On est monté sur les épaules l'un de l'autre et on s'est enveloppé dans le long manteau d'hiver de Ma. Mani faisait les jambes, Joël le torse et moi, comme j'étais le plus léger, la tête. On a utilisé une échelle pour ne pas tomber, mais les genoux de Mani ont ployé sous le poids, alors on a dû rester couché par terre. On était une femme déchue, incapable de se relever, une femme impuissante, coincée sur le dos. Quand on était frères, on était mousquetaires.
Vous vous fiez à quoi avant de débuter un livre, indépendamment de votre profession ?
Mais c'est intéressant,
si cela existe encore.
C'est intéressant que vous disiez indépendamment de votre profession, parce que je crois que c'est toujours indépendamment de sa profession quand on ouvre un livre. Moi, j'en reçois beaucoup parce que c'est mon métier, mais j'ai toujours les mêmes seuils de lecture que tous les lecteurs. C'est-à-dire que je vais regarder la couverture, le titre, le nom de l'auteur, les premières pages, la dédicace, la quatrième de couverture.
Par ordre chronologique d'importance, ce que vous voulez
me
citer ?
Non, pas du tout. Vous savez, on saisit un livre et on va le triturer, le fouiller. J'aime beaucoup désacraliser l'objet livre. Moi, j'ai tendance à le mordre, par exemple, le livre, vous voyez.
Quel est le livre que vous avez le plus mordu ?
Léo de Hurlevent, d'Emily Bronté, c'est celui que j'ai le plus lu. Mais voilà tous les seuils de lecture. Alors après, comme c'est mon métier, je me force quand même à lire. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de courage dans le métier de lecteur aussi. Au moins une centaine de pages avant de savoir si je le lâche ou non. Après, j'ai toujours en mémoire cette phrase de Doris Lessing dans la préface qu'elle fait au Carnet d'or, son grand livre. Des années plus tard, elle dit, comme conseil à ses étudiants, ne vous laissez jamais dominer par la page imprimée. Et ce qu'elle dit à demi-mot, c'est que on a le choix en tant que lecteur, on a la liberté en tant que lecteur de lâcher un livre. Et si on le lâche à un moment de notre vie, eh ben, il nous reviendra peut-être, sans qu'on le sache. Moi, il y a des livres que j'ai ouverts à 18 ans, auxquels je n'ai rien compris, et qui, soudain, me parlent aujourd'hui. Vous voyez, c'est intéressant.
C'est étonnant la phrase de Doris Lessing, quand vous l'avez commencé, je me suis dit, on pourrait dire la même aux écrivains, ne vous laissez jamais dominer par les pages blanches, quoi.
Par les pages blanches, alors ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas écrivain, moi je n'ai pas ce rapport-là à la littérature. Ce que je sais, c'est que l'écriture pour moi est toujours une épreuve dans l'exercice de mon métier. Écrire un billet tous les matins pour entamer mon émission, c'est toujours une épreuve. Donc je peux peut-être comprendre ce que c'est que la page blanche, mais, et vous savez, pour avoir interviewé des écrivains depuis 15 ans, je me rends compte qu'il y a autant d'écrivains qui vous parlent de page blanche que d'autres qui vous parlent de ce qu'ils sont obligés d'enlever, en fait, de récurer, d'épurer, pour atteindre la plus belle des simplicités.
Est-ce qu'il y a des pages de lecture qui vous ont inspiré dans la formulation de vos fameuses questions ?
Alors, vous savez, quand je pose une question, c'est vraiment que je n'en connais pas la réponse. Donc, il y a quelque chose de très sincère chez moi dans la mise en question. Après, il y a aussi des stratégies. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que je le fais pour le... ou qu'on pose une question ou qu'on fait nos métiers pour l'art, mais il y a aussi une question de stratégie. C'est-à-dire que moi, j'ai en direct un invité face à moi et il va s'agir quand même de le faire parler et de lui faire dire, si possible, des choses intéressantes. Donc, je vais alterner entre les questions ouvertes, les questions fermées. Si je sens que l'invité est un petit peu plus résistant, s'il a du mal à répondre, ce que je vais faire, c'est que je vais poser 3 questions fermées pour qu'il réponde par oui ou par non. Et après, une grande question ouverte, il va le mettre en confiance. Vous voyez, il y a beaucoup de stratégies qui... Bon, après, maintenant, je fais ce métier depuis longtemps, donc je le fais presque inconsciemment. Mais il y a de ça. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de la beauté de la question. Parce que moi, je crois que quand on pose une belle question à quelqu'un, il a envie de répondre par une belle réponse. Il a cette attention. Et je crois aussi, ça c'est très important pour moi, que je ne pose pas les mêmes questions à tout le monde. C'est-à-dire que je ne demande pas à Lydie Salvert quelle est la beauté d'un légume. Une question que je peux poser à un grand chef. Ça peut paraître... C'est-à-dire que mon émission n'est pas un questionnaire. Et ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que la construction d'une émission, c'est une mise en question et ça prend énormément de temps. Moi, ils sont 2-3 à travailler avec moi et on met 10 heures à préparer une émission, vous voyez. Donc, c'est vraiment une construction.
Je vais vous poser une question qui peut-être va vous mettre en déconfiance. Celui que vous aimez lire, mais que vous ne voudriez pas rencontrer.
Alors, c'est compliqué parce que mon métier, c'est de rencontrer justement des écrivains. Donc, j'ai plutôt tendance, moi, personnellement, à vouloir toujours rencontrer
des auteurs. Vous pourriez faire appel à l'esquive de la mort et me citer quelqu'un qui est déjà décédé, non ?
Oui.
Factuellement, vous ne pouvez plus rencontrer.
Oui. Mais si j'ai bien compris votre question, c'est que je ne voudrais pas rencontrer. Ça me pose une question morale. Je me méfie beaucoup du jugement moral sur la littérature. Par exemple, je pense que beaucoup de personnes auraient pu répondre, quelqu'un comme Louis-Ferdinand Céline, pour ce qu'il a pu écrire, et je pense notamment à ses pamphlets. C'est quelque chose auquel je résiste, parce que je pense qu'au demeurant, ça doit être une rencontre absolument passionnante, la rencontre avec Louis-Ferdinand Céline. Donc, je ne sais pas. Non, je veux bien rencontrer tout le monde. J'esquive.
Et si vous deviez rencontrer un héros ou une héroïne ?
De la littérature, je rencontrerais peut-être le héros de Tendre et la nuit, dont le nom m'échappe, mais qui est un grand héros de la débandade dans le roman de Fitzgerald. C'est-à-dire qu'il commence très bien et finit très mal.
Et vous lui poseriez quoi comme question ?
Qu'est-ce qui va pas ?
Et vous pensez que vous aurez quelle réponse ?
Je pense qu'il serait plus en état de répondre.
Y a-t-il un livre d'enfance que vous aimeriez relire ?
Oui, Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Il se trouve que ma belle-mère, la mère de la personne avec qui je partage ma vie, est une spécialiste de la comtesse de Ségur. Et du coup, j'ai des grandes conversations avec elle sur un texte que j'ai lu quand même quand j'avais 5, 6, 7 ans, je pense. Et c'est un livre qui me fascine encore aujourd'hui pour ses toutes premières pages. Si vous vous souvenez bien, il est question d'une poupée qui n'a plus d'yeux. Et il est question d'une maman qui recoue les yeux de la poupée. Et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce que nous dit la comtesse de Ségur sur l'éducation. « Je vais vous apprendre à voir. Je vais recoudre vos yeux pour vous apprendre à voir. » Et cette logique d'éducation, pour le moins problématique, je pense, m'a hanté toute ma vie, parce que c'était les livres qu'on était autorisés ailleurs quand on était petit. La question que je me pose, c'est qui m'a appris à voir et comment apprendre à ne plus voir de la même façon.
Merci Augustin Trapenard.
Mais c'est moi qui vous remercie, Judith. J'espère que ça allait, que j'étais au niveau.
Vous l'étiez.
Parce qu'à la grande différence
au niveau
de tout...
la littérature que vous nous avez,
parce qu'à la grande
dont vous nous avez ravis.
À la grande différence de tous vos interlocuteurs, moi je ne suis pas écrivain. C'est important de le noter.
On vous retrouve dans votre nouvelle émission Plumard sur Brut Hits et toujours sur France Inter toute la semaine dès 9h dans Boomerang. Et puisque nous avons parlé des pouvoirs du livre et vous l'avez mentionné, je rappelle que vous êtes également le parrain de l'ONG Bibliothèque sans frontières. La série de podcasts des Qu'est-ce qu'il lit enregistrée au Salon du Livre du Mans est à retrouver, bien entendu, sur lemonde.fr et les plateformes habituelles d'écoute de podcasts. À bientôt, bonne lecture.